Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et JPA International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et comme vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dosinet, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Damien Potvin, président de JPA Group. Bonjour Damien.
Bonjour Pauline.
Ensemble, nous avons la chance de recevoir Charles Calestroupa, directeur commercial France de Microsoft. Bonjour Charles.
Bonjour Pauline.
Alors Charles, vous êtes diplômé de l'École centrale de Lyon avec une troisième année à l'École de management de Lyon. Vous êtes devenu un passionné de la transformation digitale dès votre stage de fin d'études dans la Silicon Valley. Après un début de carrière dans les télécoms et l'IT chez Orange et Cisco, vous rejoignez en 2006 Minerva, un groupe industriel familial que vous avez racheté et développé pendant près de 10 ans et dont vous êtes d'ailleurs toujours l'actionnaire majoritaire. Et puis plus tard, en 2018, vous rejoignez Microsoft France, dont vous êtes membre du comité de direction depuis 2020 et dont vous avez dirigé le secteur public puis les grands comptes privés à partir de 2022. Alors, un mot sur votre carrière. Est-ce que Microsoft France était en fait la suite logique de votre parcours professionnel?
Oui, puisque c'est la synthèse entre l'aspect entrepreneuriat et la passion pour la transformation digitale. Et donc, je peux, je dirais, mettre en œuvre les compétences que j'ai développées sur le début de ma carrière chez Microsoft, tous les jours.
Alors, avant de parler un peu de ce que vous faites précisément, un mot sur Microsoft. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'ils ne sont pas nombreux, mais je préfère rappeler quelques chiffres. Hein. C'est quand même une multinationale informatique américaine qui existe depuis 50 ans, qui conçoit des plateformes et des services de cloud et d'intelligence artificielle. Microsoft est présent dans 190 pays, un chiffre d'affaires de 245 milliards de dollars, 228 8000 collaborateurs dans le monde et en France, puisque vous êtes là pour nous parler de Microsoft France. Il faut savoir que Microsoft est présent depuis 1983 et aujourd'hui vous êtes plus de 2100 collaborateurs avec un écosystème de 10 500 partenaires et startups. Vous êtes d'ailleurs répartis, me semble, un peu partout sur le territoire, mais principalement à Issy, c'est ça, Issy-les-Moulineaux?
Le siège est à Issy-les-Moulineaux et après nous avons des présences en région, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, voilà, dans un certain, Toulouse, un certain nombre de villes.
Alors pour vous interroger aujourd'hui, avec tout plein de questions, Guillaume Dosinel.
Charles, quels sont les grands défis que rencontrent aujourd'hui vos clients?
Je pense que sur le marché français, le principal défi pour les entreprises, c'est un défi de compétitivité. La compétitivité se traduit par un besoin de productivité, d'innovation. Ce sont des facteurs de différenciation. Et donc, les technologies, l'intelligence artificielle, le cloud sont des technologies qui permettent de contribuer à répondre à ces enjeux de compétitivité. Si je prends l'exemple de la productivité, des outils d'intelligence artificielle comme par exemple Copilot sont des outils qui est l'agent intelligence artificielle qui vient assister les collaborateurs dans les entreprises. Et bien avec ce type d'outils, on va pouvoir gagner en productivité, on va pouvoir automatiser un certain nombre de tâches et donc se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée.
Microsoft prévoit de former 1 million de Français à l'IA d'ici 2027. Quelles sont les étapes clés pour réussir cette ambition?
Je dirais d'abord, c'est de trouver des partenariats. On a mis en œuvre un partenariat avec France Travail et Cocoroé pour former 300 000 demandeurs d'emploi aux fondamentaux de l'intelligence artificielle. On a également créé un partenariat avec Simplon en 2018 pour créer des écoles en intelligence artificielle. Ce partenariat nous a permis de former près de 1 000 apprenants en France, et quasiment la totalité d'entre eux ont trouvé un emploi en sortant de cette école. Donc c'est vraiment de trouver des partenariats, de travailler avec les acteurs de l'écosystème.
Quels enseignements tirez-vous du dernier Work Trend Index sur les nouveaux modes de collaboration homme-IA?
Alors effectivement, c'est un rapport qu'on a sorti au mois d'avril dernier et qui montre, premier enseignement, que la notion d'agent, donc vous savez, ce sont ces systèmes autonomes avec de l'intelligence artificielle qui permettent d'anticiper, de générer du contenu, de raisonner. ces agents sont une réalité aujourd'hui. On a 46% des dirigeants qui déclarent les avoir déjà mis en œuvre dans leur entreprise. On a 71% des dirigeants qui déclarent que dans les 12 à 18 mois, ils souhaitent mettre en œuvre ce type de solution pour assister leurs collaborateurs. Donc c'est une réalité, c'est un mouvement qui se met en œuvre à l'échelle. Hein, vous voyez, 71%, donc c'est la quasi-intégralité des chefs d'entreprise qui aujourd'hui travaillent à la mise en œuvre de ces solutions.
Damien, vous avez aussi des questions pour notre invité du jour.
Tout à fait. Bonjour Charles. Alors, on parle tous de l'IA aujourd'hui, donc vous avez beaucoup investi dedans, vous avez formé beaucoup de personnes, mais il y a un frein aujourd'hui ou pas? Parce que finalement, les gens ne savent évidemment pas l'utiliser, mais on ne sait pas quoi en faire, à part poser des questions assez bêtes sur ChatGPT. Concrètement, pour une PME, qu'est-ce que ça permet de faire?
Merci de poser la question sous l'angle PME. Je vais d'abord parler des freins. Je pense que le principal frein, c'est la formation, ce sont les compétences. Pour le dire plus simplement, c'est de savoir utiliser l'intelligence artificielle. On a tous joué avec ChatGPT, on a été surpris par les résultats. Il y a des résultats qui sont étonnants de pertinence, d'efficacité, et puis des résultats où on ne comprend pas pourquoi ChatGPT n'y arrive pas mieux. On a tous eu cette expérience. Eh bien, en fait, c'est parce que la compétence du 21e siècle, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering, et donc c'est de savoir prompter. Et donc, il faut savoir interroger, il faut comprendre un minimum comment ça marche. C'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a été formé, mais il faut passer une demi-journée à se faire expliquer comment fonctionne un modèle, quel type de données ça va interroger. Tout le monde peut y arriver, mais il faut passer un petit peu de temps à se former. Et après, il y a des bonnes pratiques à mettre en œuvre qui sont parfaitement adaptées également aux PME, où on va créer des communautés d'utilisateurs. Donc, les commerciaux vont parler avec d'autres commerciaux, les gens des ressources humaines vont parler avec d'autres personnes des ressources humaines pour se partager un petit peu les bonnes pratiques, les prompts qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins, et donc capitaliser sur ce qui marche. Ce qui marche très bien, c'est tout ce qui est lié, par exemple, au service client. C'est tout ce qui est lié au marketing, au développement de produits. C'est tout ce qui est lié à la productivité, donc générer des emails. C'est tout ce qui est lié à la recherche, rechercher des documents, rechercher un email, rechercher un Teams chat. Tout ça, ce sont des choses qui fonctionnent très bien. Là, je pourrais prendre plein d'exemples. Et la traduction également, c'est quelque chose qui fonctionne très bien.
Alors, autre question. Alors, n'y voyez surtout pas un pic, parce que Microsoft est une compagnie américaine. Et globalement, aujourd'hui, on s'inquiète avec l'IA du secret des questions, des informations qu'on va poser maladroitement sur les IA. Est-ce que vous avez mis en place pour l'Europe, entre guillemets, des serveurs qui sont localisés en Europe? On est toujours quand même localisé aux US.
Ces inquiétudes sont légitimes. Microsoft a pour ambition de rendre l'IA accessible au plus grand nombre de manière responsable, et donc ça passe effectivement par la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures qui sont des mesures techniques, qui sont technologiques, qui sont des mesures contractuelles et qui sont des mesures en matière de business model, d'éthique. Donc je ne vais pas détailler les trois types de mesures, mais simplement pour répondre de manière très claire, nous avons des data centers en France, nous en avons déjà. Nous avons annoncé l'année dernière, avec la venue du président Macron dans nos locaux, à l'occasion de Choose France, un investissement de 4 milliards en France pour continuer à investir dans des data centers en France, en particulier sur l'intelligence artificielle. Et donc nous mettons en œuvre tout un tas d'outils que je ne vais pas détailler ici, mais qui permettent de maîtriser la confidentialité, les données, la propriété intellectuelle, et également des outils et des bonnes pratiques pour déployer l'intelligence artificielle de manière éthique, de manière responsable.
Très bien, merci. Ça rassurera beaucoup d'entrepreneurs. Dernière petite question, mais très rapide. J'ai vu que vous avez fait une grosse politique RSE au sein du groupe. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a un retour sur investissement tant humain que financier? Parce que je pense que ça interroge beaucoup les entrepreneurs qui voudraient le faire.
Alors, la politique RSE, c'est d'abord une responsabilité. Et ensuite, effectivement, en tant qu'entrepreneur, ça apporte une richesse dans l'entreprise. Je peux en témoigner en tant qu'entrepreneur, parce que je l'ai été pendant 10 ans, et je peux en témoigner en tant que dirigeant chez Microsoft. Chez Microsoft, on a pris trois types d'engagements. Des engagements au plan environnemental. Donc on s'est engagé à être carbone négatif en 2030, à être water positif et neutre en déchets. Donc ça, ce sont des engagements qui sont très structurants parce qu'ils vont nous amener à innover, à faire appel à l'écosystème, à travailler avec des startups, des entreprises qui vont rechercher des solutions pour atteindre ces objectifs. Donc c'est très sain, ça drive de l'innovation. De la même manière, on travaille sur un certain nombre d'ERG. Donc les ERG, ce sont des groupes de salariés qui sont volontaires, qui vont travailler sur des sujets de diversité et d'inclusion. Hein, donc on en a un certain nombre chez Microsoft. On va travailler sur des sujets comme la famille, la mixité, le bien-être des personnes LGBT+, dans l'entreprise, l'intergénération. Il y en a d'autres. Et donc, d'abord, le bien-être des entreprises dans une entreprise, ça a de la valeur. C'est un des critères clés pour un talent aujourd'hui, pour intégrer une entreprise. Donc, quand vous avez une vraie politique de RSE qui est sincère, qui est incarnée, eh bien, vous attirez, vous motivez des talents. Et donc, je pense que la valeur, elle est ici.
Très bien, merci.
Allez, il nous reste un tout petit peu de temps pour une petite dernière question un peu plus personnelle. Il me semble que vous pratiquez les arts martiaux. C'est vrai, déjà?
C'est vrai.
Qu'est-ce que ça vous apporte?
La pratique des arts martiaux, c'est au plan business, hein, dans un cadre professionnel, c'est la préparation mentale. Donc ça permet de rester serein dans des temps difficiles. Donc en ce moment, c'est utile. Oui. Voilà, je pense que c'est essentiellement ça le parallèle. Moi, je suis assez fan de Michael Gervais, qui est quelqu'un qui travaille à coacher les équipes de sport et des gens, des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise. Et il réutilise énormément de techniques issues du sport pour préparer mentalement des gens qui sont dans le monde de l'entreprise. Et tout ce qui est préparation au mindset de haute performance, ça marche très bien, les techniques issues du sport.
Merci pour les tips et merci aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci également à vous Guillaume et Damien. C'est déjà la fin de ce numéro de PME Radio, mais retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn. Et puis on se retrouve jeudi prochain à 14h pour découvrir un nouvel invité. Merci beaucoup.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP et JPA International.